à votre santé. Bonjour les amis de RVM, voici la 209e émission de l'Association citoyenne pour des centres de santé dans le Pays de Valois. Et pour commencer, très bonne année et très bonne santé à toutes et tous. Aujourd'hui, nous avons un invité,
Élie Pouilloude,
et évidemment mes deux compères,
Daniel Cléo, bonjour les amis du 93.7, la radio associative qui appartient à ses auditeurs. Bonne année à tous et à toutes.
Et Christian Max.
Eh bien, chers amis auditeurs, auditrices, nous allons poursuivre notre cycle, si j'ose dire, sur la santé mentale. Peut-être que certains d'entre vous, certaines, n'ont pas pu écouter nos dernières émissions de l'année 2023, mais nous avions déjà eu deux émissions avec Odile Guillard et André Barnou sur la Nouvelle Forge. Et aujourd'hui, nous poursuivons donc avec Élie Pouilloude, qui va tout de suite nous dire quel est son rôle dans la Nouvelle Forge.
Alors, je suis le directeur du pôle sanitaire de l'association. Et le pôle sanitaire est une entité qui comprend deux dispositifs essentiels. Le premier étant le secteur de psychiatrie infanto-juvénile du sud de l'Oise. Et donc, il comprend les CMP de Crépy-en-Valois, de Senlis, de Creil, de Gouvieux, l'hôpital de jour de Senlis. Nous en parlons peut-être tout à l'heure, mais la maison des adolescents qui vient d'ouvrir en début d'année, donc en janvier 2023 à Montaterre. Également la psychiatrie de liaison avec le service de pédiatrie du GHPSO. Et j'oublie les CATTP adolescents, les CATTP petite enfance autisme qui sont sur le territoire
vous,
de...
Vous pouvez nous préciser le CATTP?
Il y a beaucoup de cibles,
Alors, mais tout à fait, il faut expliquer un petit peu ça. CATTP, c'est Centre d'activité thérapeutique à temps partiel. Ce sont les dispositifs qui fonctionnent sur des demi-journées. Nous en avons quatre, donc deux sur le secteur de Crépy-Senlis, deux sur le secteur de Gouvieux-Creil. Et à chaque fois, sur chaque secteur, nous avons un CATTP adolescent qui est chargé de recevoir des adolescents qui présentent des troubles du comportement, des troubles psychiques, des phobies scolaires, sociales. Ce sont des prises en charge sur des demi-journées qui peuvent tout à fait s'articuler avec une inscription scolaire et en fonction de l'évolution de la situation, de la santé psychique du jeune augmentée, c'est-à-dire deux, trois demi-journées et un petit peu moins de temps scolaire, ou quand ça s'améliore... réduire, réaugmenter le temps scolaire et réduire les soins. Et nous avons également deux CATTP, là aussi sur les mêmes secteurs, donc Crépy-Senlis et un sur le secteur Gouvieux-Creil, deux CATTP petite enfance autisme, qui reçoit des enfants de 0 à 6 ans avec leurs parents. Alors, pas que sur des troubles autistiques, sur des troubles de la relation, sur des troubles envahissants du développement. Avec un travail sur la parentalité, un travail sur la relance des processus du développement de ces tout jeunes enfants, sur le plan moteur et sur le plan langagier.
Vous avez combien de salariés et est-ce que vous avez des bénévoles pendant qu'on est
dans les effectifs? Alors, sur l'ensemble du pôle sanitaire, nous avons à peu près 200 salariés. Sur l'association La Nouvelle Forge, qui comprend d'autres pôles que le pôle sanitaire, puisqu'il y a aussi deux pôles médico-sociaux, un dans le sud de l'Oise également, qui comprend un ITEP, un IME, un IMPRO, des CESAD, et un sur le secteur, sur l'Oise aussi, mais dans le secteur adulte, avec ESA, Thomas, et également un qui est un peu plus éloigné dans la Somme. Sur l'ensemble de l'association, c'est à peu près 600 salariés, dont un petit peu moins de 200 sur le pôle sanitaire. Et le pôle sanitaire, donc le secteur de psychiatrie infanto-juvénile et les CMPP, puisque c'est ça le deuxième gros dispositif de notre secteur, avec une particularité qui nous distingue aussi du nord du département, qui est que nous sommes à la fois CMP et CMPP. Voilà.
Ah, il va falloir nous expliquer tout ça dans le détail. Et je reviens juste à ma première question. Donc, vous avez dit que vous êtes directeur du pôle sanitaire. Donc, c'est vraiment beaucoup d'établissements. Oui. Hein, il y a tout un ensemble. Donc, en fait, quelle est votre fonction exacte par rapport à tous ces établissements?
Alors, moi, de formation, je suis docteur en psychopathologie. Et mes responsabilités sur l'établissement, alors je dirige un certain nombre de CMP et CMPP, notamment ceux de Crépy-en-Valois, les CATTP de Crépy-en-Valois également, Idem sur Senlis, sur le secteur de Gouvieux et de Creil. Je suis épaulé par un collègue directeur adjoint, M. Kourou. Et mes fonctions sont de garantir, de porter un projet de soins sur l'ensemble du territoire, de suivre et de coordonner les soins en santé mentale pour les enfants, alors les tout-petits, les petits, les adolescents, un travail sur la parentalité, garantir une qualité des soins, garantir le développement de ces dispositifs et la cohérence de cet ensemble de dispositifs de soins qu'on propose, donc, enfin, dont nous avons la responsabilité, qu'on propose à l'ensemble de la population du secteur du sud de l'Oise. C'est une particularité que nous sommes un secteur associatif, mais sur le pôle sanitaire, nous avons une mission, une délégation de
service public.
Tout à fait. Et donc, nous sommes responsables d'un secteur de psychiatrie infanto-juvénile. Il y en a trois dans l'Oise, un sur l'Est, un sur l'Ouest et un sur le Sud. L'Est et l'Ouest englobant le Nord.
Quand vous dites trois secteurs de psychiatrie...
Infanto-juvénile.
Ah, pour les enfants.
Voilà.
D'accord. Et c'est quoi un secteur? C'est une zone géographique?
Tout à fait. Tout à fait. Le secteur Ouest-Sud comprend un bassin de population d'à peu près 320 000 personnes. Pour, en termes de mineurs, on couvre à peu près 65-70 000 potentiellement mineurs sur
un secteur.
Oui, c'est ça.
Ah, donc c'est important, hein, 60-70 000, effectivement. Alors, mais enfin, tout le monde n'est pas malade.
Heureusement.
Mais la file active est quand même de... à peu près 2000 patients. Quoi.
Mmh.
2000 patients usagers sur l'ensemble du secteur ouest.
Donc, quand vous dites file active, c'est ceux que vous suivez?
Absolument, ceux qui ont au moins une. Alors, ça va du tout venant, enfin, des choses assez légères, c'est-à-dire une petite consultation pour un moment compliqué, pour un moment dépressif, pour un trouble en milieu scolaire, pour jusqu'à des situations plus complexes. Des formes de handicap psychique, des troubles du comportement, des troubles psychopathologiques importants, des troubles de la relation. Nous recevons... d'ailleurs, sur les CMP et CMPP, nous avons quand même une vocation généraliste. C'est-à-dire, nous recevons toute personne qui se présente à nous et qui fait une demande de soins.
CMP, parce que c'est pour les adultes, c'est ça?
Alors, CMP, non. CMP, enfant-ado.
Mais alors, et CMPP, c'est pas psychopédagogique?
Si, alors les CMPP, c'est centres médico-psychopédagogiques, voilà. Et les CMP, centres médico-psychologiques. Alors, on a la particularité en France, sur le secteur infanto-juvénile, d'avoir deux types de dispositifs, dont d'ailleurs la distinction n'est pas toujours aisée, pas toujours évidente, dépend aussi des différents départements, des départements en France où les populations sont tout à fait bien ciblées. Telle population ou tel type de pathologie relève du CMPP ou d'un accompagnement CMPP ou tel type de trouble d'un CMP. Il y en a d'autres pour qui c'est beaucoup plus flou. Par exemple, j'ai rencontré récemment des collègues dans le département de l'Aube et qui, CMP et CMPP, sont exactement sur la même population. En gros, ça dépend de qui s'adresse à qui. Quoi. Mmh. Et nous, dans l'Ouest-Sud, avec la Nouvelle-Fange, on a une particularité. Je crois qu'on est deux en France à avoir fait ça. C'est d'avoir mis ensemble les CMP et les CMPP. Par exemple, si vous habitez à Compiègne, là, vous êtes sur un autre secteur que le nôtre, qui est un secteur qui dépend du CHI. Bien,
le CHI, c'est-à-dire?
Le Centre Hospitalier Isarien.
Isarien. Voilà. Ah oui, on dit plus interdépartemental,
c'est isarien.
Clairement.
Tout à fait. Et le CMP dépend donc du CHI, et les CMPP dépendent de l'association des PEP, et ce sont vraiment deux dispositifs différents, avec des équipes différentes, et qui essayent d'avoir chaque dispositif leur population. Quoi. Nous avons fait le choix de réunir les deux. Évidemment, nous distinguons bien les missions, hein, mais c'est la même équipe qui va opérer des pratiques de CMP et des pratiques de CMPP. Et pour tout dire, d'ailleurs, dans ce qu'on appelle nous les CMP et CMPP sur l'Ouest-Sud, chaque professionnel qui travaille, qui nous rejoint, chaque soignant, est indistinctement une partie sur le CMP, une partie sur le CMPP.
Alors, pour clarifier ça, parce que finalement, oui. Je me demande ce qui va les distinguer, pourquoi on dit quand même qu'il y en a qui relèvent du CMP, du CMPP, même si c'est rassemblé. D'abord, qu'est-ce qui sollicite une consultation, un suivi?
Alors, ça va être nécessairement sur demande des responsables légaux du mineur, c'est-à-dire des détenteurs de l'autorité parentale.
Pour les enfants, ça se comprend.
Tout à fait. Donc des détenteurs de l'autorité parentale. Donc, habituellement, les parents, le père ou la mère, mais ça peut aussi être parfois des tiers dignes de confiance. Ça peut être parfois des délégations d'autorité parentale. C'est assez rare, mais ça peut arriver, notamment auprès de l'aide sociale à l'enfance. Mais c'est en tout cas toujours sur accord des parents, ou d'au moins un des deux parents, étant entendu que le deuxième ne donne pas son désaccord. Pour les adolescents, c'est un petit peu différent. Nous pouvons effectuer des consultations en CMP pour des adolescents à partir de 13 ans sur leur propre demande. Voilà.
Sur leur propre demande.
Oui.
Mais alors, comment peuvent-ils être informés qu'ils peuvent vous solliciter?
Nous avons normalement un maillage du territoire avec différents un réseau, avec différents partenaires, différents acteurs sur le territoire. Évidemment, l'éducation nationale.
Oui.
Le tissu associatif, les différents acteurs de la santé mentale, de la prévention, du soin. Je pense évidemment au PMI, au CAMPS, à nos partenaires du champ sanitaire. Et normalement, nous maillons le territoire de manière à ce que l'information circule sur comment accompagner des jeunes parents ou un adolescent pour faire une demande de soins le concernant.
Donc, si j'ai bien compris, en fait, il y a tout un réseau de professionnels de l'éducation du social qui ont l'information et peuvent orienter les jeunes de 13 ans, ou au moins les informer, à partir de 13 ans, je veux dire, de cette possibilité, parce qu'ils sentent que...
Absolument.
Voilà,
absolument.
L'adolescent... C'est très intéressant à savoir, parce que, quand même, il y a eu beaucoup de... Enfin, beaucoup... Un nombre bien plus important de jeunes, d'adolescents qui se sont trouvés mal, enfin d'enfants et d'adolescents qui se sont trouvés mal après la période du confinement ou pendant le confinement. Et comment dire, on a entendu que c'était très difficile d'avoir un rendez-vous en consultation psy. Donc, vous avez eu à ce moment-là beaucoup de demandes, vous avez dû faire face à un afflux.
Alors, oui, c'est quelque chose de très important ce que vous évoquez. Sur l'ensemble du secteur Ouest-Sud, dans notre dispositif du pôle sanitaire, nous avons deux axes prioritaires. La prise en charge des tout-petits pour qui on suspecte un développement un trouble du spectre autistique en développement, et les adolescents pour qui on peut craindre un risque suicidaire.
Donc ça, suicidaire, oui.
Tout à fait. Donc
oui,
ça, ce sont des patients qui n'attendent pas. C'est-à-dire que ce qu'on appelle entre nous, entre guillemets, les patients coup de fil, c'est-à-dire qu'un tout petit qui a 18 mois et pour qui on soupçonne un trouble du développement, bah évidemment, à 18 mois, on ne va pas le faire attendre un an ou deux. La psyché est tellement plastique et se développe tellement vite qu'il faut être très, très réactif.
Voilà, dès 18 mois, oui, d'accord.
Oui, même avant. Et pour des adolescents suicidaires, ou à risque suicidaire, évidemment, il faut les recevoir immédiatement. En ça, là, vous m'interrogez tout à l'heure sur la distinction entre les missions de CMP et de CMPP. Là, nous activons, nous, nos missions de CMP, c'est-à-dire nos missions de branche de psychiatrie infanto-juvénile et de réponse à l'urgence en pédopsychiatrie. Et nous recevons, dans ce type de situation-là, les adolescents dans les 48 heures. Au moins pour une première consultation, ce qui n'augure pas ensuite de l'entrée dans un processus de soins, mais au moins pour une première consultation.
Donc dans les 48 heures, c'est comme une urgence.
Donc, tout à fait. Donc ça, c'est comme un point qui est très très important, c'est-à-dire que la question n'est pas tellement au niveau de l'adolescence, parce que je vais revenir effectivement sur ce que vous dites après, à partir de la période Covid qui est tout à fait essentielle. La question n'est pas tellement relative à l'âge, mais à la problématique que rencontre le jeune dans cet âge-là. C'est-à-dire qu'un jeune de 14-15 ans qui ferait une demande de soins parce que pour une angoisse ou pour des troubles en milieu scolaire, ou évidemment serait reçu, mais serait en liste d'attente classique. C'est-à-dire, alors, je peux donner quelques éléments de représentation. On a un petit peu plus de 2000 patients envisagés en fonction du secteur dans lequel on se situe, quoi. Sanitaire ou médico-social, mais grosso modo, sur le CMP, CMPP de Crépiat en Valois, on a à peu près entre 400 et 500 patients reçus, c'est idem sur Senlis, un petit peu moins sur Gouvieux, on est entre 350-400, et sur Creil, c'est tout à fait différent, c'est beaucoup plus, c'est 800. Et en termes de liste d'attente, c'est similaire grosso modo sur les CMP, CMPP de Crépiat en Valois, de Senlis et de Gouvieux. On est à peu près sur 60-70 patients en attente avec des délais en moyenne pour les situations qui ne sont pas pour nous urgentes, c'est-à-dire pour qui il n'y a pas soit un caractère létal, risque létal, soit un trouble grave du développement.
Et donc, quand on dit en attente, c'est quelle est la durée?
En attente d'un premier rendez-vous. Et là, en moyenne, on est entre 3 et 6 mois, à peu près.
D'accord, 3 à 6 mois.
Pour avoir... Nous mettons en place des consultations, des entretiens d'évaluation, qui, eux, sont plus rapides, mais un premier rendez-vous avec un psychologue se fait entre 3 et 6 mois, à peu près. Hors situation urgente, comme on l'a évoqué. Je tiens à préciser que la situation est différente sur le CMP et CMPP de Creil, où il y a plus d'attentes, il y a une population plus importante et
plus de professionnels en proportion.
Voilà.
Oui, alors, bon, bah, écoutez, c'est très important hein, de savoir tout ça. Hein. Je pense que on va, parce que comme vous visez beaucoup, enfin, vous connaissez bien la situation. Alors, c'est ce que vous dites, le secteur infanto-juvénile, donc les petits enfants jusqu'aux jeunes, quoi, on va dire, hein, si je ne me trompe pas. Ça va nous permettre peut-être d'approfondir, de prendre le temps d'approfondir ultérieurement sur les établissements. En particulier, vous m'avez parlé d'une maison des adolescents. Donc ça, on pourra peut-être l'aborder ultérieurement, parce qu'il y a peut-être d'autres questions qui se posent sur déjà cet ensemble qui nous a été brossé.
Juste, on peut s'éloigner un petit peu de tout ça, c'est malheureux. Christian, il a peut-être un petit...
Oui, on va le faire, mais on va terminer d'abord là-dessus. Hein, oui, on va tout à fait. C'est pour ça que je disais qu'on approfondirait ultérieurement sur les autres sujets. Donc, on vous remercie, monsieur Pouillot. Là, vraiment, on a eu déjà une somme d'informations très importante. Et on a l'habitude de donner quelques informations sur, disons, plus globales sur la santé. Et c'est Christian qui va... et donc, on se revoit prochainement. Oui. Merci. À toi, Christian.
Oui, quelques nouvelles du front. Voilà. Donc, tout d'abord, le bulletin de la semaine de Santé publique France, hein, qui nous dit que pour la bronchiolite, l'épidémie se poursuit. Sauf en Bretagne, qui commence à être en phase
de sortie.
Oui. Pour le Covid-19, on est toujours bien placé très haut, parce que malheureusement...
Qui nous, l'Oise ?
Non, la France.
La France.
La France, et malheureusement, il n'y a pas assez de vaccination. On n'est qu'à 28% de personnes vaccinées dans celles qui devraient l'être, dans les personnes à risque. Donc, c'est pas étonnant que ça se passe pas trop bien, mais c'est quand même en diminution.
D'accord.
Voilà. Et puis, la grippe, ça y va plein pot. Si j'ose dire, malheureusement, c'est pas aussi dangereux que le Covid-19, mais on n'est pas loin, quoi.
Oui, on a entendu parler d'hospitalisation. Oui. Donc, malheureusement, c'est ce qu'on voit dans notre entourage, les personnes atteintes d'une affection ou d'une autre. Oui. Alors, il paraît que tu aurais des bonnes nouvelles pour le début de l'année.
Pour le début de l'année, oui, j'ai trouvé quand même des choses intéressantes. Que l'OMS a approuvé un nouveau vaccin contre le paludisme. On sait les ravages que ça fait dans des pays qui sont plus au sud que nous. Donc c'est plutôt une bonne chose, au moins pour les habitants qui y habitent et puis pour ceux qui peuvent être amenés à y aller pour des raisons diverses ou variées.
C'est vite attrapé, le paludisme.
Alors un peu dans le même genre de choses aussi, on a le premier vaccin contre les chikungunya est approuvé aux États-Unis. Là aussi, ça concerne des contrées plus au sud, mais enfin bon... Dans la France globale, il y a des contrées plus au sud.
Oui, tout à fait.
Plusieurs traitements sont sur la table aussi pour faire face à la bronchiolite.
Donc, ça, c'est intéressant pour les bébés.
Et puis, des prometteuses pistes sont en train de s'ouvrir grâce à l'ARN messager pour lutter contre le cancer.
Merci. Merci, Christian. Eh bien, chers amis, on vous dit à la prochaine fois. Vous pouvez nous écouter le mardi à 13h, le jeudi à 16h et le samedi à 10h30.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.